Chères auditrices, chers auditeurs, vous allez écouter la partie 2 de l'épisode 5, deuxième saison. Cet épisode 5 est dédié à la reconstruction et une nouvelle vie monoparentale. L'important, c'est le soutien des associations et des projets. Il évoque également la maltraitance. Le jour d'après est une fiction inspirée de faits réels. Place à l'écoute, épisode 5, nouvelle vie. Le mois d'octobre est arrivé très vite. Et ce mois a été complètement fou. Le premier podcast est sorti sur toutes les plateformes d'écoute. Avec Diana, nous nous occupons de lancer le compte Instagram du jour d'après. Et là, tout s'écroule. Une vague de haine s'abat sur Instagram. Des femmes se sentant bafouées, criant haut et fort que l'histoire de Mélodie ou de Catel était leur histoire. Elles ont détruit le personnage de Mélodie. Elles ont craché sur mon histoire, sur mon travail, sur mon hommage. La rumeur m'avait même accusée de faire de l'argent sur le dos des cancéreuses. Cette haine est arrivée avant la diffusion des podcasts. Personne ne les avait écoutés, et même pas moi d'ailleurs. Je n'avais pas eu de chimio, alors je devais fermer ma gueule. C'est ce que j'ai pu lire sur les publications visées. Je ne pensais pas à mon âge vivre du cyberacharnement, et encore moins en diffusant un projet de sensibilisation pour rendre hommage aux femmes victimes de maladies graves. Je n'avais vécu que de belles choses jusqu'à présent, que des jolis liens, simples, des liens d'écoute, de compréhension, de confidence, et d'un coup, cela n'existait plus. J'avais pensé que le cancer rendait les relations féminines moins cruelles entre elles. Mais le cancer ne change rien, finalement. On ne peut pas toutes s'aimer ou s'apprécier. Il y en a que j'ai découvert au fil du temps et qui finalement étaient à l'opposé de ce que je m'étais imaginé à leur sujet. On s'aime trop fort, trop vite, et on ne se connaît pas. Chacune prend des chemins différents, c'est la vie, il n'y a pas de conséquences. Mais là, nous avions atteint un degré de méchanceté et de malhonnêteté gratuite. Quand ces trahisons sont apparues au vu de toutes, les langues se sont déliées. Les langues se sont confiées. Et j'ai découvert une saison complète de Dallas et son univers impitoyable. Dès qu'une telle avait un beau projet, une idée et un peu de visibilité, les JR et Wing version féminine surgissaient de partout. Des opportunistes, des coups bas, des menaces, des trahisons, les insultes, les blocages, les ghostages, tout était permis. Tu avais beau avoir partagé des bouts de vie, des bouts de confiance, des bouts de ton cœur, devant de la visibilité et des followers, ton bout d'amitié était réduit en miettes. Ces confidences m'ont permis de me relever, de prendre beaucoup de distance avec le love story du cancer du sein. Heureusement, des personnes ayant été touchées par mes podcasts ont compris que toutes ces accusations n'étaient pas fondées. Mélodie a repris sa place d'héroïne. J'ai reçu des témoignages de partout, d'Europe et même du Canada. Nous savons très bien qu'un livre ou un film qui marque les esprits sont ceux où nous pouvons nous transposer. Le défi était donc finalement relevé. Nous avons été invités avec l'association Étincelle à présenter un long extrait du cinquième épisode le jour d'après à l'Assemblée nationale. La présidente de l'association présentait leur projet de soins de support afin d'obtenir des aides pour les cancers métastatiques. Lors de mon discours et pendant la diffusion de l'épisode, je n'ai eu Dieu que pour ma fille. Je voulais qu'elle m'accompagne pour ce grand événement dans mon histoire de femme. Elle avait les larmes aux yeux et m'a dit à quel point elle était fière. Et ça, c'est tout ce qui comptait pour moi. Deux députés avaient les yeux rougis et sont venus me féliciter pour mon écriture et pour toutes les émotions que mes mots leur avaient procurées. Je ne pensais pas mériter tous ces compliments et je ne savais pas comment les accueillir. Et je suis restée sans voix. Je ne suis pas encore guérie, je n'ai pas suffisamment confiance en moi. J'ai toujours ce sentiment d'imposture, et encore plus sur un art que je ne pensais pas maîtriser il y a quelques mois. Remise de mes émotions, je passe le permis, et je l'obtiens. Ce mois d'octobre est complètement fou, je vous l'avais dit, et c'est une réussite. Petit à petit, je gravis des marches. Petit à petit, je deviens moins petite. La psychanalyse avance plus vite que prévu. Je comprends, je gratte où il faut, je me renforce, je me tiens de plus en plus droite. Je continue à rencontrer Carianne tous les mardis avant sa séance chez le psy du centre. Elle s'épanche sur son passé et ses regards glacent mon quotidien au fur et à mesure de nos rendez-vous. Il y a une évolution physique chez elle. Je le remarque et ça me touche. Elle s'applique sur le choix de ses vêtements, elle insiste un peu plus sur son maquillage, presque inexistant lors de nos premiers contacts. Comme si j'étais un rendez-vous galant. Cela me rappelle Mélodie, qui ne se maquillait jamais dans son quotidien pré-cancer. Avec la perte de ses cheveux et de ses sourcils, elle était devenue une pro en la matière. Je souris en pensant à ses tutos make-up où elle interpellait Christina Cordula, vous vous souvenez? Carianne était belle, mais elle n'avait pas conscience de la beauté qu'elle dégageait. Elle était subtile, mais ne le savait pas. Elle était douce aussi, mais ne le montrait pas. Elle était de ce genre de femme qui pleure sous la douche en étouffant ses cris. Sa famille et ses amis étaient usés de ses mauvais choix de vie et de son manque de sincérité. Elle se mentait à elle-même, donnait peu de nouvelles, ne faisait plus d'efforts, et finalement les liens s'étaient distendus. Son mari lui disait
« Ton entourage est nocif et inintéressant. Personne n'est là pour toi. Personne ne te soutient. Moi je suis toujours là, je suis présent. Et jamais personne ne t'aimera comme moi. Jamais personne ne pourra te supporter à part moi. »
Il ne voulait pas rencontrer l'entourage de Carrie-Anne. Et si elle était invitée et qu'elle voulait honorer ses amis de sa présence, il la menaçait de la quitter. Il lui affirmait dans sa paranoïa maladive.
« De toute façon, tout ce que tu veux, c'est séduire. Les hommes te voient comme un trou. Tu pues le sexe. Tu me dégoûtes, t'es qu'une pute. »
Alors, elle restait avec lui, pour lui prouver qu'elle n'était pas une pute, qu'il se trompait. Elle trouvait toujours des excuses, toujours des mensonges, pour garder la face auprès de ses proches, de plus en plus déçus face à ces annulations devenues récurrentes. Je passe mon deuxième Noël en famille en 15 ans. Les odeurs de feu de cheminée, les poutres, les vieilles pierres et la vieille maison me bercent. Les repas du Périgord, le foie gras, le chapon, les truffes, la tarte aux noix réchauffent mon ventre et le bousculent. Nous jouons aux cartes, buvons du thé, faisons des balades digestives. Nous vivons une simplicité rassurante. Ma fille et moi prenons le temps de nous déconnecter de notre vie parisienne et de faire le bilan de cette année riche en émotions. Mes parents ne me prennent toujours pas dans les bras. Nous sommes encore masqués. Passer de telles étapes de vie sans pouvoir pleurer dans les bras de sa mère ou de son père laisse des traces. Cette distance imposée laissera des fêlures en moi. Il me reste quelques jours avant de reprendre ma vie en main, de recharger mon pass Navigo qui était resté inactif depuis mars 2020. Je vais reprendre le métro 5 matins par semaine. Je reprendrai les transports pour rentrer chez moi 5 soirs par semaine. Vous l'avez deviné ? Je retrouve le chemin du travail. Je prépare ce comeback depuis quelques mois avec la directrice générale de la boîte qui m'avait licenciée économiquement. Elle fait partie de l'équipe qui a racheté l'entreprise avec la moitié des salariés. Je lui avais dit que j'avais besoin de temps, du temps pour me remettre de mes ruptures émotionnelles. Je devais prendre soin de moi avant de coiffer de nouveau ma tête de la casquette de manager. Elle avait compris, nous étions rencontrés et eu à plusieurs reprises au téléphone. Nous avions gardé contact jusqu'à la proposition concrète de mon retour imminent. J'aurais aimé négocier encore un peu de temps, mais je me suis sentie obligée de reprendre le chemin de la réalité par pression sociale et économique. Je devais aussi montrer l'exemple à mon enfant, nous stabiliser et assurer notre avenir. Être adulte, mère et femme responsable. Je n'ai pas envie de reprendre le travail, je ne vais pas vous mentir. Mon quotidien, ma routine, mes activités, les associations, la reprise des études, l'écriture, le sport, les amis me comblent. J'ai peur de ne plus profiter, de ne plus trouver un sens à ma vie. De rendre mon quotidien fade, en mode automatique. J'ai peur du métro-boulot-dodo. Je prends le train pour aller travailler. Je me sens un peu perdue. Je n'ai plus le même tempo que les gens pressés. Je me sens encore dans un monde parallèle, en dehors du système. J'observe les passants, ces personnes ayant un but, comme une spectatrice invisible. Et en plus, j'étouffe avec ce masque. Je retrouve mes anciennes collègues. La boutique ressemble à un placard. J'essaye de me convaincre que pour une reprise, une petite boutique avec une petite équipe correspond à mes capacités du moment. Mais je me sens rapidement à l'étroit. Au bout de quelques jours, je suis finalement heureuse de travailler, mais j'ai besoin de plus, de plus grands défis, de meilleurs challenges. Je vois moins ma fille. Il n'y a plus d'aventures hors normes à vivre, à partager ensemble. Nous évoluons dans un quotidien classique, banal, qu'il faut réapprendre et c'est difficile. Notre vie de péripétie me manque. Je continue à voir Carrie-Anne et ses récits deviennent de plus en plus difficiles pour moi à supporter. Je me bats avec mes propres démons, mais je réponds présente pour l'écouter. Les humiliations sont arrivées subitement dans la rue car elle n'arrivait pas à porter la poussette dans les escaliers du métro. Devant d'autres piétons parisiens, il lui a crié.
« T'es vraiment une handicapée. T'es bonne à rien. »
Il se plaignait d'elle auprès de ses proches afin que personne ne l'aime. Il aimait lui dire que sa famille et ses amis ne l'affectionnaient pas. Il en ressentait une grande satisfaction et un apaisement. Il ne supportait pas qu'on puisse l'apprécier, la trouver belle, gentille ou intelligente. Il aimait être au centre des conversations. Il avait la tchatche, s'inventait des vies et faisait le show devant ses apôtres. Les pics revenaient régulièrement.
« Petite conne, t'es vraiment bête. T'es devenue n'importe quoi. J'aime pas la femme que tu es. T'es vulgaire, grossière et violente. »
À chaque insulte, à chaque scène de rabaissement et d'humiliation ou de colère, le lendemain, il faisait comme si le beau temps avait toujours existé. Elle essaya d'obtenir des excuses pour le peu de dignité qui lui restait. Il la regardait interloquée en la traitant de menteuse, qu'il n'avait jamais émis de tels propos, mais que c'était elle qui l'insultait. Il le disait avec une telle conviction, une telle vérité qu'elle croyait devenir folle. Elle poursuit.
Au bout de quelques années, j'ai commencé à l'enregistrer. La peur au ventre qui le découvre, le portable dans mon jean partout, où que j'aille, même aux toilettes. Les insultes pouvaient durer toute une journée. Il me suivait dans toutes les pièces, me poursuivait, ouvrait les verrous avec un couteau afin qu'il décharge ses frustrations sur moi et surtout que j'entende bien ce qu'il avait à me dire. Ne jamais me laisser en paix, il en jubilait. L'enregistrer m'a permis de me rassurer. Je n'étais pas folle. Mais autre chose s'est déclenchée en moi. Je le pensais malade. Cela ne pouvait être autrement. Et dans mes valeurs, on ne quitte pas quelqu'un de malade.
Un jour qu'il a bloqué contre le mur, lui hurlant par crachat toute la haine et le dégoût qu'elle lui procurait, elle voulut se dégager de sa poigne. Ce jour-là, il lui a dit
« La prochaine fois que tu me touches ou que tu me bouscules, je te ferai une main courante contre toi. »
Il vivait déconnecté de la réalité, de la vérité universelle. Il se vivait en victime. Un mois après ma reprise, Salomé se sent mal, une fatigue qui la cloue au lit. Début 2022, au moindre symptôme, passage obligé à la pharmacie pour se faire tester. Elle n'y échappe pas, elle est positive. J'ai une peur panique de l'attraper. Déjà parce que j'ai peur de ne plus pouvoir m'occuper d'elle. Aussi parce que je suis asthmatique et que le moindre rhume dégénère toujours chez moi. Je ne peux pas non plus être en arrêt maladie alors que je viens de recommencer le travail. Deux jours plus tard, je suis positive. J'avais échappé au virus du Covid pendant 2 ans, mais là, il a été efficace. Au moins, je n'ai plus à faire de plateau repas déposé derrière la chambre de ma fille, ni nettoyer de façon compulsive toutes les poignées, interrupteurs des toilettes et salles de bain dès qu'elles se déplacent. Nous pouvons enlever nos masques et nous confiner ensemble sur le canapé-lit du salon. Au menu, Netflix, réseaux sociaux, gâteaux et Haribo. Le 6 février, je reçois une notification de ma tante sur Messenger. Je ne vais plus sur Facebook et encore moins sur Messenger depuis des années. Je défile mes anciennes conversations et les statuts en ligne ayant du temps à tuer. Et à côté du prénom de Victor, il y a un petit point vert indiquant qu'il est présent en ce moment sur le réseau. J'ai une soudaine envie de lui faire coucou, prendre des nouvelles, juste comme ça. Juste pour savoir, juste pour voir. Comme je ne suis pas du genre à réfléchir trop longtemps mais à faire les choses instinctivement, je lui envoie un message. Coucou, comment vas-tu? Ça me ferait plaisir de prendre un verre avec toi un de ces jours. Je suis un peu directe pour une personne que je n'ai pas vue depuis plus de 20 ans. Comme si de rien n'était, comme si nous n'avions pas vécu une rupture dégueulasse, comme si je n'étais pas partie salement. Qu'a-t-elle, dans toute sa légèreté, dans le meilleur des mondes? Je pense qu'il ne va pas me répondre et ça serait bien mérité. Mais 1h44 plus tard, un message s'affiche.
Hello qu'a-t-elle, ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Je vais bien et toi? Quand tu veux pour boire un verre et se raconter nos vies.
Je lui donne immédiatement mon numéro de téléphone. Je suis très peu farouche avec lui, ce qui m'étonne, puisque je suis en pleine période « les hommes c'est tous des cons, les hommes plus jamais ». On décide de se voir rapidement, mais il annulera au dernier moment. Je sais que je ne suis pas sa priorité et qu'il travaille beaucoup. Je reprends ma vie de métro-boulot-dodo. Épisode joué par Suzanne dans le rôle de Kerry-Anne, Guigui dans le rôle du mari de Kerry-Anne, Tib dans le rôle de Victor et Karine Abbé dans le rôle de Catel. Écrit et imaginé par Karine Abbé, produit par l'association Demain. Épisode dédié aux femmes, celles qui se battent, qui s'ouvrent, qui se reconstruisent, qui sont seules, qui reçoivent des coups, aux femmes qui luttent, qui se relèvent, à toutes ces femmes tombées sous les coups parties trop tôt, pour qui nous vivons plus intensément.